Mon grand-père est au volant. Il est concentré sur la route car il pleut des cordes et qu'il y a beaucoup de vent. Quand il est entré sur l'autoroute, il a mis la voiture à 110 sur la voie de droite et m'a conseillé de ne pas la pousser au-delà. Elle n'est pas toute jeune, a-t-il dit. C'est la vitesse qui lui correspond le mieux. Quand ce sera à moi de prendre le volant, il s'inquiétera beaucoup de la vitesse à laquelle je roulerai. Le tableau de bord de la Toyota est orienté de telle sorte que seul le conducteur puisse le voir. Mon grand-père ne le verra pas et sera constamment persuadé que je roule au-delà de la limite permise. Assise seule sur la banquette arrière, je regarde ma grand-mère qui me tourne le dos. Il fait froid. Elle porte un châle orangé qui remonte jusqu'à la base de ses cheveux. La pluie est si forte que seuls sont visibles les quelques mètres de bitume que nos roues avalent. Il n'y a rien à voir, rien à commenter. La direction de son regard la protège. C'est le moment. Lorsque mes grands-parents m'ont proposé de remonter une voiture avec eux depuis le Portugal jusqu'à Paris, j'ai su que j'allais le faire. Ouvrir cette brèche, m'y engouffrer. Regarder ma grand-mère et lui dire dans les yeux « Betsy ». Lorsque j'y pense, lorsque je pense à la cascade de mots bafouillés qu'il me faudra prononcer pour y arriver, je sens mon ventre se serrer. Comment basculer du silence au son d'un prénom plombé de secrets ? Autrement dit, quelle est la meilleure manière de lâcher une bombe ? Par la suite, les choses deviendront plus aisées. Les membres de ma famille viendront me trouver, l'air curieux, l'air soupçonneux. Alors, il paraît que tu fais des recherches sur Betsy ? Ils ne diront jamais sur maman, sur ma grand-mère, sur ma sœur. Ils diront toujours sur Betsy. Mais pour l'instant, Betsy est un nom qui ne se prononce pas. Je sais qu'à l'instant où j'aurai tiré ce nom du silence, avec ce geste sec du scaphandrier tirant sur le câble qui le relie à la surface lorsqu'il en vient à manquer d'oxygène, quelque chose sera différent. Une modification imperceptible de la qualité de l'air. Quelques difficultés à respirer, contagieuses. Une brusque nausée. Une tension de tous les muscles. Une soudaine immobilité des corps, suspendue à ce nom. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. Un nouvel épisode un peu spécial car c'est aussi le dernier, car l'émission s'arrête après deux saisons et une trentaine d'invités qui forment une galerie de personnages que j'adore, le souvenir d'un moment chargé et intime partagé avec elles, avec eux. 30 épisodes qui ne s'effacent pas à écouter encore quand vous le désirez sur le site de Radio G, radio-g.fr. Betsy, c'est le prénom que j'ai prononcé dans le texte lu en exorde de cet épisode. Un prénom entouré d'un mystère, le prénom qu'elle a osé prononcer au sein de sa famille, brisant ainsi un silence devenu trop pesant. Le prénom d'une femme dont on découvre la vie et les drames brisés par d'autres, par des hommes. Dans un livre d'Adèle Lyon, paru en 2025 aux éditions du Sous-Sol, et titré « Mon vrai nom est Elisabeth », d'où est issu le texte lu inauguralement. Elle aussi a des prénoms à prononcer, deux prénoms, deux grand-mères que nous avons en commun. Je suis ravi d'accueillir à ce micro Aurélie Dedon, spécialiste en innovation et nouveaux usages de l'immobilier économique, engagée en faveur de l'immobilier social et solidaire. Bienvenue Aurélie et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci Valentin.
Aurélie, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Mes grand-mères s'appelaient Albertine, ma grand-mère maternelle, et Charlotte, ma grand-mère paternelle.
Alors tes grand-mères, comment tu les appelais toi ? C'était quoi leur surnom ?
Alors Charlotte, c'était Mamie, tout simplement, Mamie Charlotte. Et Albertine, c'est une grand-mère que je n'ai pas connue, et donc je n'ai pas de nom à lui donner. Et par ailleurs, ce prénom d'Albertine, il est arrivé très très tard aussi, dans ma vie. Et donc, le texte que tu as lu en exergue est particulièrement signifiant parce qu'effectivement, quand des grands-mères ont disparu de manière trop rapide et trop violente pour la famille, ou quand d'autres personnes d'ailleurs de la famille, autres que des grands-mères, mais en tout cas, c'est une grand-mère qu'on ne nommait pas, qui n'avait pas de prénom. Ce travail de donner un prénom et de rendre visible ce prénom, il est déjà essentiel.
Oui, donc c'est un peu pour ça que l'émission porte ce prénom, Albertine, un prénom qui était un peu imprononçable et qui est désormais prononcé, qui est dit, qui est partagé, un tout petit peu. Est-ce que tu peux essayer de nous raconter un peu son histoire, Albertine, comment tu l'as découverte, comment tu as découvert son existence ?
Donc Albertine, c'est cette grand-mère dont on ne parlait pas parce qu'elle est décédée de manière violente. Elle a choisi de se donner la mort. Voilà, donc ça a été un traumatisme hein, pour toute cette famille, forcément, notamment ses enfants qui étaient encore jeunes. Donc nous, on ne la connaît pas et on n'en parle pas. Et donc moi, je grandis jeune fille née dans la fin des années 70 avec, avec l'absence de cette grand-mère dont j'ai la vague idée qu'elle est décédée dans un accident. C'est l'idée que j'en ai, c'est ce qu'on m'a probablement transmis quand j'étais très jeune. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'interroge pas forcément, mais en tout cas, c'est un prénom qu'on prononce pas et une personne qui n'existe pas dans les échanges qu'on peut avoir dans une famille pourtant très soudée, très présente. Donc voilà, c'est cette mort violente qui fait qu'il a été plus facile probablement pour les personnes qui l'ont connu de tourner rapidement cette page-là. Alors moi, je rencontre ce prénom, c'est un très très vague souvenir. Je suis avec mon autre grand-mère, donc Charlotte. Je suis à Valenciennes parce que j'allais passer du temps avec cette grand-mère et puis on se promenait dans Valenciennes et elle rencontre une amie et elles évoquent ce sujet. Et alors, je sais pas, non, j'ai pas de souvenir très précis du contexte, mais elles évoquent le sujet et j'entends suicide et j'entends Albertine. C'est un petit choc pour moi, mais à l'époque ça passe assez vite, voilà. Mais je garde ça quelque part dans un fond de ma mémoire.
Ouais, y a quelque chose qui s'est inséré en toi à ce moment-là sur cette histoire. Et quand est-ce que ça a rejailli? Quand est-ce qu'une curiosité potentiellement est née pour elle, pour sa vie, pour son histoire de femme?
Bah après, je pense que c'est tous ces moments de la vie d'une femme qu'on traverse. Il y a la grossesse, on devient maman, donc on interroge quand même beaucoup la lignée des femmes aussi, mère, grand-mère, etc. Et puis, il y a une période de ma vie où je m'interroge sur qui j'ai envie d'être, sur la mère que je suis, l'épouse que je suis, la femme que je suis dans la vie sociale aussi, dans le monde du travail, etc. Je me pose beaucoup de questions. Et à ce moment-là, je me dis que toutes ces questions-là qui déjà, moi, me bouleversent et me traversent et m'amènent à repenser qui je suis et de quoi j'ai vraiment envie dans la vie et surtout à essayer de mettre mes envies et ma liberté au premier plan, je me dis qu'en fait, peut-être qu'Albertine a vécu la même chose que moi et que moi, je m'en sors très bien parce que je suis dans un monde dans lequel les femmes sont libres de faire leur propre choix et qu'Albertine n'a peut-être pas eu ces choix-là et que c'est peut-être le fait de se sentir confrontée à cette privation de liberté en tant que femme de cette époque. Femme dans les années d'après-guerre, on va dire, enfin femme, mère, épouse dans l'après-guerre, puisqu'elle s'est mariée juste après la guerre, que c'est peut-être ces contraintes-là, ces vies parfois malheureusement étriquées, empêchées pour ces femmes, empêchées d'avoir un rôle vraiment dans le monde, notamment social, extérieur, en dehors du monde intérieur de la famille, qui l'a amenée à cette détresse et à ce désarroi. Et donc là, j'essaye de comprendre ce qui lui est arrivé.
Son mal-être de femme de cette époque-là, est-ce que tu as un petit peu étudié ça, questionné ça? Qu'est-ce que tu as reçu comme trace de ça?
C'est difficile de rapprocher le cas individuel d'Albertine qu'on connaît très mal du cas global, ou en tout cas de la condition globale des femmes. Mais c'est vrai qu'on sait, et d'ailleurs le livre d'Adèle Yon témoigne aussi de manière très forte d'une femme qui probablement avait juste envie de sortir du cadre classique qu'on imposait aux femmes à l'époque et pour qui la société n'a pas accepté en réalité cette forme de décalage, de liberté, d'autonomie. Albertine, c'est probablement le reflet d'une époque d'après-guerre où les femmes ont eu comme un goût de liberté et de puissance, d'autonomie, d'égalité par rapport aux hommes. Et en réalité, une société qui évolue pas si vite que ça et dans laquelle les femmes restent cantonnées et parfois aussi pour... ça leur plaît aussi, évidemment, hein, d'être mère de famille, d'être gardienne du foyer, d'être épouse, amoureuse et attentionnée. C'est aussi des rôles agréables, mais qui peut-être suffisent pas à l'épanouissement de ces femmes-là à l'époque.
Et là, ce que tu dis, c'est un peu l'exemple précis aussi pour revenir à Albertine, où pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents avaient une ferme, et c'est elle, en tant que presque aînée, c'était la deuxième d'une famille de 10 enfants, a priori, c'est elle qui gérait toute la vie de la ferme, c'est elle qui prenait les responsabilités, elle avait une grande présence, autonomie, un rôle large dans la petite communauté, famille, village. Et tout de suite après ça, le mariage est peut-être, on peut pressentir une espèce de moment de brisure entre cette liberté, cette autonomie qu'elle avait et les contraintes liées à ce qu'est l'institution du mariage à cette époque-là.
Oui, complètement. Ça, c'est toi qui as travaillé sur le sujet, qui nous a permis justement de la comprendre mieux, Albertine, et de connaître ce rôle qu'elle avait effectivement pendant la guerre. Une femme hyper investie, joyeuse, engagée, qui organisait à la fois la logistique pendant la guerre dans un village du Nord, dans lequel c'était l'occupation, c'était les tickets de rationnement, etc. Donc, il fallait se débrouiller, il fallait mener la ferme, les hommes étaient partis. C'était Albertine qui avait passé son permis de conduire aussi, et c'était pas si fréquent non plus les femmes qui conduisaient, c'était elle qui allait acheter les voitures, c'était elle qui s'en occupait, etc. Et oui, c'est vrai que, donc à nouveau, passer du cas général au cas particulier, mais ce cas particulier est peut-être aussi révélateur de ce que les femmes ont pu vivre de manière générale, à retourner dans des vies dans lesquelles, là encore, un mariage peut être heureux, mais en tout cas, il est contraint, et notamment contraint d'un point de vue financier, parce que c'est encore l'époque où les femmes travaillent très peu. Elles commencent à travailler en ville, mais pas en ruralité. Et ne pas travailler, c'est ne pas avoir d'argent. Et quand on a de l'argent de poche de la part de son mari, on n'est pas autonome. Et voilà. Et par ailleurs, l'autonomie bancaire est arrivée début des années 80. Enfin, voilà, c'est incroyable d'imaginer ça aujourd'hui.
Et on sait qu'Albertine, elle voulait travailler, elle a travaillé un moment, elle voulait gagner son argent, elle voulait monter son commerce. Il y a eu cet élan-là, quoi.
Mais oui, l'autonomie financière, c'est de cette manière-là qu'on devient libre, autonome, indépendant. Et on comprend cette volonté qu'elle a pu avoir de se dire je passe par là pour avoir mon propre budget et pouvoir ne plus dépendre de l'autre qui était son mari.
Et tout ça, évidemment, sans rejeter ce mari, cette vie familiale, comme tu disais, qui fait partie d'un tout, mais qui doit coexister aussi avec une liberté d'entreprendre des choses en tant qu'individu, en tant que femme.
Oui, mais c'est la fameuse injonction dont on parle encore aujourd'hui, que moi, j'ai pu ressentir, qu'on ressent encore en tant que femme aujourd'hui, cette injonction quand même à rester la femme, épouse, mère qu'on attend. Que nous soyons, et même si évidemment on peut se libérer de cette contrainte-là, mais il y a encore ces injonctions un peu contradictoires à rester très efficace. Ouais, c'est pas très joli, mais en tout cas il y a cette forme-là au sein du foyer, tout en étant autonome, entrepreneuse. Indépendante, épanouie, ambitieuse.
Tout réussir à la fois.
Et tout réussir. Et cette injonction, c'était le début de ces injonctions-là, mais avec tellement moins de moyens que nous aujourd'hui, enfin nous, femmes, dans nos sociétés occidentales, par ailleurs.
Et pour revenir à ce que tu disais sur tes questions contemporaines en tant que femme, à cette époque-là, Albertine t'a accompagnée. Comment c'était quoi cette présence d'elle à ce moment-là? Une aide, une voie vers le questionnement
En fait, cette réflexion-là, elle m'a plutôt accompagnée C'était plutôt une crainte, en réalité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... Le suicide dans une famille, ça crée quelque chose qui est de l'ordre, de la crainte, du repoussoir. C'est quelque chose ça se transmet pas, hein, mais il y a quand même une peur. Enfin, en tant que femme, avec moi à cette époque-là, j'ai beaucoup lu sur la dimension intergénérationnelle, sur la condition des femmes à cette époque. Et à la fois, c'est intéressant de comprendre d'où on vient et quels sont les liens qui nous unissent encore à notre ascendance. Et à la fois, c'est difficile cette ascendance. Alors, pour la plupart des femmes, je pense, même si probablement que certaines femmes ont eu des grand-mères hyper épanouies, inspirantes, au début, dans les années 20, etc., peut-être. Mais quand même, la majorité d'entre nous, on a eu des grand-mères qui, malheureusement, étaient obligées de correspondre à ce qu'on attendait d'elles en tant que femmes, et donc relativement peu épanouies dans le monde dans lequel elles évoluaient. Donc, Albertine, ça, c'est son... Son cas m'a accompagnée dans ma réflexion, dans le fait de comprendre dans quel monde j'évoluais aujourd'hui et à quel point j'avais la chance de pouvoir évoluer avec finalement toutes les cartes en main pour réaliser ce dont j'avais envie.
Et je me trompe peut-être, mais on a l'impression du coup qu'entre elle et toi, cette époque qui vous sépare, c'est comme si aussi ça t'avait amené à étudier aussi toutes ces évolutions dont tu parles et dont tu bénéficies. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la femme, dans l'histoire des féminismes, entre elle et toi, et ça t'a amené aussi à étudier ça de manière un peu plus large, de manière
globale.
Oui,
j'ai beaucoup lu sur ce sujet pour comprendre. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une profonde empathie. C'est cette profonde empathie et quelque part la volonté de réparer ces torts qu'elle a pu subir à travers justement cette liberté que je... Quelque part, ça m'oblige, voilà. Mais joliment, ça m'oblige joliment et de manière positive à profiter du monde dans lequel j'évolue pour lui montrer que le monde a changé.
Et dans aussi les incertitudes inhérentes à l'étude de la vie de quelqu'un qu'on n'a pas connu et dont on ne se mettra jamais totalement à la place. Et ça fait partie aussi de l'histoire de la femme. Et Albertine a aussi subi un mal-être au moment... un moment charnière dans la vie d'une femme qui est la ménopause, avec des dérèglements hormonaux certainement, une chimie aussi médicamenteuse très peu élaborée à l'époque, antidépresseurs, les premiers médicaments pas très nuancés, on va dire, en termes d'effets. Voilà, il y a aussi cette dimension-là qui existe et qui te fait réfléchir, qui te aujourd'hui.
Ah ben, oui, parce qu'en plus, c'est un sujet alors là, qui est extrêmement actuel, parce que c'est tellement récent, le fait de reconnaître à quel point la ménopause a des effets mal connus, différents selon les femmes, très maltraités. Il y a même 10 ans, on en parlait encore très peu. Et effectivement, Albertine...
Elle n'avait pas le droit d'aller mal à cause de ça.
C'est ça.
Il n'y avait pas de reconnaissance
de
ça.
Et en réalité, cette forme de dépression qu'on peut ressentir du fait de ce dérèglement hormonal, il est aujourd'hui qualifié, connu, identifié, il fait l'objet d'études. Alors à l'époque, il a aussi été diagnostiqué chez Albertine, mais avec effectivement des traitements qui n'étaient pas du tout pertinents ou au point, et peut-être qui n'ont pas aidé justement à s'en sortir. Mais c'est aussi, en fait, dans ces injonctions, c'est aussi le fait de taire complètement, mais la ménopause, mais ce qui se joue aussi dans le corps des femmes, les grossesses, les menstruations, la ménopause, le fait que, enfin, au-delà du sarcasme qui lui existe souvent sur le sujet, de reconnaître à quel point ça bouleverse physiquement et psychologiquement les femmes. Et ça, on est au tout début de cette évolution-là dans la pensée féministe, mais le corps, quoi, le fait que le corps des femmes soit reconnu aussi dans sa complexité et dans la complexité de sa gestion d'un point de vue émotionnel, quoi.
Et Albertine, est-ce qu'il y a d'autres choses des petits éléments, objets, évocations ou souvenirs qui te restent, qui t'ont marqué aussi dans ces dernières années à essayer délicatement et lentement de comprendre et de savoir un peu qui elle était.
Oui, c'est bien qu'on parle de ça, j'élargis un tout petit peu, mais c'est vrai que les personnes qui partent comme ça de manière très violente, on a tendance à ne plus les évoquer, y compris ces petits souvenirs, ces petits moments qu'on évoque facilement avec les personnes même décédées, même de maladies, etc. Et donc, il y a très peu, en fait, de petits moments de souvenirs.
Même s'il y en a, c'est les souvenirs des autres.
Mais... C'est forcément les souvenirs des autres, mais c'est bien aussi de remettre le prénom, déjà. Ça, c'était le premier défi de prononcer ce mot Albertine, notamment en famille, et de le faire prononcer. Et c'est aussi se souvenir qu'elle jouait au piano très bien, qu'elle chantait, qu'elle organisait des chorales avec la famille. C'est ses livres de recettes qu'on a toujours. C'est très peu de photos, très très peu, et très souvent avec des lunettes fumées. C'est assez particulier de ne pas voir le regard, de ne pas voir ses yeux. C'est des lettres que tu as retrouvées, qu'elle écrivait à son fiancé et mari. Et c'est finalement assez peu d'objets. Et c'est si aussi quand même le... Alors, je vais essayer de ne pas en refaire une injonction, mais quand même, c'est le cas. C'est aussi le souhait d'une femme de bien vieillir ou de ne pas vieillir, d'être belle, d'être toujours apprêtée. Toutes ses nièces disent à quel point elle avait toujours des très belles tenues. Elle faisait rêver toutes les nièces dans le village avec ses chaussures à talons, avec ses robes ajustées, avec son souhait d'être à la mode, d'être toujours très apprêtée. C'était une femme très belle, élancée. Restons sur cette note positive de cette femme épanouie.
Et donc Albertine, c'était la grand-mère absente. Et il y a aussi la grand-mère qui était présente jusqu'à il n'y a pas longtemps, Charlotte, qui est décédée à 100 ans au mois de février dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Charlotte, petit souvenir avec Charlotte?
Oui, alors Charlotte, je l'ai bien connue. La particularité, c'est que Charlotte a eu 11 petits-enfants. 11, je regarde pour la validation. Alors Charlotte, déjà, a eu 4 garçons. Donc ça a été la maman de 4 garçons. Et ces 4 garçons ont donc eu 11 enfants, parmi lesquels seulement 2 filles, ma sœur Mélanie et moi. Donc on ne peut pas cacher que Charlotte avait quand même un attrait particulier.
Elle voulait des filles.
Pour ses petites filles. Elle voulait des filles. Elle a eu 2 petites filles. Donc, elle était particulièrement attachée à ses petites filles. Charlotte, c'est beaucoup de joie de vivre, beaucoup de générosité, notamment à travers sa cuisine. Beaucoup de... des yeux malins, de l'humour, très envie de comprendre aussi dans quel monde on évolue. Elle posait beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe à Paris? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Elle voulait savoir quel était le monde à l'extérieur de son monde à elle.
Alors Charlotte, avant de rencontrer notre grand-père Paul, a traversé aussi une histoire de femme, une histoire amoureuse à l'intérieur de la grande histoire, de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son épopée américaine?
Oui, effectivement, c'est une autre histoire de femme de cette époque d'après-guerre qui a complètement chamboulé ses vies de femme. Charlotte, c'est l'amoureuse, c'est la liberté dans l'amour. Donc, elle a 16 ans... pendant la guerre, c'est l'occupation, et elle tombe amoureuse d'un soldat américain. Elle tombe amoureuse, et puis elle est enceinte de ce soldat américain. Et donc, elle part aux États-Unis parce qu'elle est enceinte, elle se marie, donc elle va attendre un bébé. Donc, elle suit cet homme aux États-Unis, au Nouveau-Mexique de mémoire. Et elle se retrouve, elle en parlait pas beaucoup. Et elle m'en a un petit peu parlé. En tout cas, j'ai des souvenirs à propos de ça. Elle se retrouve... alors moi, j'imagine une ferme au milieu des immenses champs de blé. C'est peut-être juste mon imagination, mais c'était vraiment la manière dont je voyais ça quand elle m'en parlait. Dans une famille d'agriculteurs au fin fond des États-Unis, j'imagine que la petite fille du village du Nord, par ailleurs assez bourgeoise, d'une famille d'agriculteurs, mais plutôt propriétaire. J'imagine qu'elle imaginait l'Amérique comme étant les Américains, le fast, voilà, les grandes villes. Et elle se retrouve dans une campagne complètement isolée, dans une famille dans laquelle on ne lui parle pas. Elle ne parle pas anglais, évidemment. On lui parle assez peu. Et elle est... je me souviens qu'elle me disait qu'il fallait que je lui fasse à manger du maïs et des œufs le matin pour qu'il parte. Donc, en fait, il partait travailler, j'imagine, au champ. Et elle se retrouvait seule toute la journée. Elle était enceinte. Hein. Et donc, elle a écrit à son père qu'elle a supplié de la faire revenir. On ne sait pas ce qui s'est passé en termes de rupture amoureuse, mais elle quitte un homme enceinte de lui, dont elle était amoureuse, peut-être qu'elle ne l'est plus. Et elle se retrouve dans l'un des premiers avions qui fait la traversée de l'Atlantique avec des militaires. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle s'était arrêtée, je crois, à New York et qu'elle avait passé 3 jours dans un appartement en attendant de traverser l'Atlantique pour revenir en France. C'est incroyable, c'est des choses qu'elle n'a jamais racontées en détail, mais on imagine cette jeune femme d'à peine 18 ans, enceinte de 5, 6, 7 mois, attendre toute seule dans un appartement à New York qu'on lui dise... Elle voyageait avec les avions de l'armée. C'était son père qui lui avait trouvé une place grâce à ça, et donc qui attendait qu'on lui dise « Allez, t'embarque et tu reviens. » Et voilà. Et la très jolie histoire, c'est quand elle rentre en France... Paul l'attend, donc Paul, l'amoureux de jeunesse, et qui va devenir son mari, et donc notre grand-père.
Aurélie, il est déjà l'heure malheureusement de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Merci beaucoup d'être venu parler d'Albertine et de Charlotte. Merci à toutes et à tous pour vos écoutes. Merci à Radio G pour l'espace de rencontre et pour la confiance. On se quitte avec un texte choisi et lu par notre invitée, Aurélie Dedon.
Donc je voulais lire un texte de Simone de Beauvoir, de Mémoire d'une jeune fille rangée, livre paru en 1958, parce que j'ai souvenir que suite à ce livre, Simone de Beauvoir a reçu des milliers de lettres de femmes de la France entière qui lui ont dit à quel point la manière dont elle parlait des femmes et notamment des contraintes des femmes dans ce monde d'après-guerre les avait touchées et à quel point ça avait complètement illuminé leur vie de comprendre qu'elles n'étaient pas seules. Et donc, j'ai le petit espoir qu'Albertine ait été touchée, elle aussi, par ce texte. Demain, j'allais trahir ma classe et déjà, je reniais mon sexe. Cela non plus, mon père ne s'y résignait pas. Il avait le culte de la jeune fille, la vraie. Ma cousine Jeanne incarnait cet idéal. Elle croyait encore que les enfants naissaient dans les choux. Mon père avait tenté de préserver mon ignorance. Il disait autrefois que lorsque j'aurais 18 ans, il m'interdirait encore les contes de François Copé. Maintenant, il acceptait que je lise n'importe quoi. Mais il ne voyait pas beaucoup de distance entre une fille avertie et la garçonne dont, dans un livre infâme, Victor Marguerite venait de tracer le portrait. Si du moins j'avais sauvé les apparences. Il aurait pu s'accommoder d'une fille exceptionnelle, à condition qu'elle évitât soigneusement d'être insolite. Je n'y réussis pas. J'étais sortie de l'âge ingrat. Je me regardais de nouveau dans les glaces avec faveur. Mais en société, je faisais piètre figure. Mes amies, et Zaza elle-même, jouaient avec aisance leur rôle mondain. Elles paraissaient au jour de leur mère, servaient le thé, souriaient, disaient aimablement des riens. Moi, je souriais mal. Je ne savais pas faire du charme, de l'esprit, ni même des concessions.